Tout d'abord, je veux encore dire que je ne veux pas ou jamais mentionner le nom de la maladie populaire. Vous savez de quelle je parle. Car, à mon avis, on en parle déjà assez. Et c'est pourquoi que je l'appelle Caroline dans ce podcast. Et oui, je vous souhaite bienvenue à mon podcast pendant lequel je parle. Oui, comment Caroline influence et a changé toutes nos vies. Oui, c'est un lundi après-midi. C'est le 29 mars et normalement, je serai à l'école. Mais merci Caroline, grâce à toi, je suis maintenant assise sur mon bureau avec mon thé menthe. Et oui, je vous raconte un peu donc comment moi-même j'ai survécu cette où je suis en train d'essayer de survivre cette pandémie. Donc, comme déjà mentionné, ça fait longtemps ici et oui, ça fait en effet déjà un an que tout le monde a cru. Alors, on fait un confinement pour plus ou moins 2 semaines et après ça va à nouveau et Caroline est passée. Mais regardons-nous. Aujourd'hui, dans le mois de mars 2021, on est encore en train de suivre des strictes consignes. Oui, donc, comme déjà dit, toutes nos vies ont changé dès là. Et on ne sait pas quand on ose de voir une fin de cette pandémie, car parfois, on... Oui, je ne veux pas dire qu'on voit une fin, mais qu'on souhaite de voir une fin. Mais moi-même, je n'ai pas beaucoup d'espoir, car je ne veux pas être déçue par après. Par contre, au début, beaucoup de choses m'ont allégé survivre cette situation inattendue. Mais dans le temps passé, je suis seulement fatiguée. Ma vie a changé complètement et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une fille très différente que celle il y a plus qu'une année. Oui, presque 2, je voudrais dire. Oui, mon quotidien et presque toutes mes coutumes ont fait un tour de 180 degrés. Et je ne me suis pas variée seulement physiquement en perdant 10 à 15 kilogrammes, mais aussi les caractères. Et je pense que, oui, ça c'est une autre histoire mentale. Je pense aussi le fait de ne pas être autorisée d'aller comme d'habitude à l'école ou l'université ou travail. Aussi, ce qui influence vraiment la mentalité et de limiter ses contacts personnels influence beaucoup. Comment les gens, et particulièrement les plus jeunes, mais aussi les petits-enfants, comment ils se sentent. Maintenant, je dois penser à mes petites cousines qui habitent en Allemagne. Je ne sais pas qu'elles ont déjà visité l'école dès le début de l'année scolaire. Oui, c'est pourquoi que j'ai aussi demandé à ma sœur Noémie, qui est une étudiante à l'université Bonn. Elle recevra maintenant ses 22 ans dans quelques mois. Je pense. Et je l'ai invitée à nous parler un peu de sa vie étudiante, donc comment elle essaye d'avoir un peu de plaisir pendant ce temps très difficile. Et tu as parlé des examens. Est-ce que tu peux nous raconter comment ils se déroulent?
Donc, la plupart des examens est organisée en ligne, mais il y a aussi quelques examens qui ont lieu sur place. Donc, on doit porter pendant toute la durée de l'examen un masque. Il y a les salles qui sont désinfectées.
Et donc, c'est pas beaucoup plus différent qu'ici au lycée, donc car...
Je dirais non.
Oui, donc alors les examens en ligne, nous ne les connaissons pas du tout. Nous sommes heureux qu'on puisse encore les faire à l'école. Et donc, comment sont organisés le reste des cours à l'université?
Donc le reste se déroule aussi tout en ligne. Oui, les professeurs enregistrent leurs vidéos et après avoir vu ces vidéos, on a la possibilité d'une conférence où on peut encore poser des questions. Et donc ces cours supplémentaires, il y a donc plus de temps qui s'accumule pour un seul cours. D'autre part, les professeurs font tous les cours en ligne. Chez vous, je crois que Il y a une conférence vidéo.
Ça dépend. Donc, parfois, les professeurs font aussi par avant des vidéos. Normalement, les professeurs préfèrent les visioconférences.
Parce qu'il y a directement une discussion et donc on peut aussi poser directement les questions qu'on a.
C'était quand la dernière fois que tu étais à l'université?
Oui, c'était la semaine passée parce que j'avais un examen à l'université, mais c'est le seul examen que j'ai en présence. Et donc, auparavant, je crois que la dernière fois j'étais à l'université, c'était en décembre.
Maintenant, on a parlé beaucoup de l'université, donc parlons un peu de la vie d'étudiante. Tu ne peux pas
Oui.
profiter beaucoup de cette vie, mais qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de tes activités scolaires? Donc, dans ton temps libre, est-ce que tu sors de ton appartement ou est-ce que tu restes isolée devant la
Non,
télévision?
non, ça va, non, j'essaie d'aller une fois par jour en dehors un peu se promener pour, oui, avoir un peu de l'air fraîche et pour, oui, essayer de gagner un peu de distance. À l'université, j'essaie de trouver des choses qui n'ont pas directement un lien à l'université ou parfois rencontre encore un petit nombre de nos amis.
Vous avez encore des rendez-vous avec donc vos amis pour boire une bière ou quelque chose comme ça?
Je dirais, oui, tous les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Actuellement, ce sont 3 copains.
Donc, est-ce que tu peux encore nous dire c'est quoi qui te manque le plus dans ta vie étudiante?
C'est sûrement de rencontrer ses amis à l'université, de pouvoir en parler sur des sujets du cours ou d'autres choses pour avoir plus de contacts personnels. Et oui, aussi de connaître les professeurs en personne parce qu'actuellement, on peut faire des cours, on n'a jamais vu le professeur, donc
Il y
c'est
a
un peu
beaucoup.
drôle. Oui, de faire quelque chose avec le cercle des étudiants luxembourgeois à Bonn, parce que là, c'est la plupart de nos amis ici à Bonn, aller à une partie ou quelque chose comme ça.
Oui, je te comprends, mais je pense que chez vous, c'est encore un peu plus drôle. Comme elle a raconté, son déroulement des cours à l'université est construit oui, plus ou moins du même principe que le nôtre. Mais honnêtement, je pense que je suis un peu plus heureuse qu'elle, car moi, je peux encore aller à l'école, voir quelques de mes amis, même s'ils sont toujours les mêmes, mais aussi établir une connexion avec les professeurs. Ce n'est pas un secret qu'on comprend et suit le cours mieux en présentiel, ce qu'elle n'a pas du tout. Et honnêtement, l'école fait aussi plus plaisir quand on a une certaine connexion avec les professeurs. Mais oui, comme je la connais, sans doute, elle réussit à rattraper le programme par elle-même car elle est très ambitieuse. Mais je vois plutôt le problème chez d'autres élèves. Car j'ai aussi parlé avec quelques professeurs de notre lycée et je pense tous les professeurs ont aussi des soucis des étudiants ou élèves un peu plus problématiques, je voudrais dire, car il y a aussi des élèves qui ne font rien du tout pendant le temps du homeschooling, mais oui, de l'autre côté, on a à nouveau ceux qui travaillent énormément. Mais oui, alors, comme déjà dit, j'ai parlé avec quelques professeurs de notre lycée. Et je me suis posé la question si la situation du homeschooling est plus simple pour eux. Écoutons un professeur de notre lycée et voir comment il réagit à cette situation.
Je suis ici à côté de Monsieur Nguyen. Bonjour.
Bonjour, bonjour, salut.
oui, je pense que vous le connaissez tout.
Je l'espère au moins un peu parce que, ouais. Alors, pour être sincère, c'était l'année passée, n'est-ce pas?
Oui.
C'était l'horreur pour moi parce qu'on n'était pas habitué à rester à la maison, rester enfermé.
Oui.
Et c'était vraiment le choc, sincèrement. Plus d'un an maintenant, je commence à avoir oui, une certaine habitude pour rester à la maison, etc. C'était vraiment difficile. Et je me suis rendu parfois à l'école pour travailler un peu.
Okay.
C'était comme dans un film d'horreur, tu sais, dans, oui, dans les films américains d'horreur, parce qu'une école sans élèves, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, tellement horrible.
Oui.
Et après, lorsqu'on a repris l'école, parce que j'étais le premier à reprendre le cours parce que j'avais une classe de première.
Mm-hmm. Ah oui.
Je me suis souvenu ce jour-là où l'équipe de RTL est venue pour me filmer. J'avais porté le masque. J'ai jamais porté le masque avant pour enseigner. J'avais complètement oublié d'enlever le masque.
Mm-hmm.
Et je trouvais ça tellement triste parce que je n'étais pas habitué à voir la moitié de la classe.
Oui.
Et puis les élèves qui étaient là comme des zombies, qui n'avaient plus de rythme à, oui, l'école. Et je me suis dit, oh, pour une classe de première qui dans 2 semaines va faire son examen, c'est tellement triste parce qu'en classe de première, comme tu le sais, là c'est l'école, mais c'est aussi de fêter, de faire des choses avec des copains, des amis, etc. Mais là, c'était vraiment assez triste.
Mm-hmm. Donc les étudiants sont devenus aussi un peu comme des... pas vraiment des zombies, mais...
Très passifs.
Oui, oui.
Oui. Et ce qui me dérangeait, c'était vraiment qu'il n'y avait plus cette atmosphère de classe.
Mm-hmm.
On était toujours à moitié. Mm-hmm. C'était toujours les semaines A et les semaines B, je pense, oui, semaine à la maison, une partie et l'autre.
Oui.
Et surtout, nous, les professeurs, avant le lockdown, je n'ai jamais entendu parler de Teams.
Oui, moi non plus.
Voilà, toi non plus. Donc, et moins de 2-3 jours dans ce week-end-là, tout le monde devait avoir Teams et avoir un laptop ou un iPad à la maison et de travailler là-dessus. Là, on était totalement désorganisés.
Oui, c'était vraiment chaotique.
Alors, à nouveau, un grand merci à M. Nguyen pour cette interview très intéressante, car j'ai aussi appris beaucoup de nouvelles choses, pas seulement comment il a réagi à cette pandémie, mais aussi sur lui-même. Et donc, oui, je suis très contente que je pouvais faire une interview avec mon professeur d'histoire. Donc, je pense que maintenant, on a parlé assez de la situation dans l'école et je pense que M. Alt, vous la connaissez aussi très bien. Mais oui, donc, de quoi peut-on encore parler? Ça, c'est aussi le problème. On ne peut pas faire un discours avec quelqu'un d'autre sans mentionner au minimum une fois Caroline. Et oui, si on a donc parlé de cette maladie, on ne sait pas de parler quoi d'autre. Alors, je vous raconte un peu de mes nouveaux loisirs que j'ai découverts pour moi pendant la pandémie, car comme on a déjà dit, j'ai fait un tour de 180 degrés, donc j'ai aussi découvert de nouveaux loisirs et de nouveaux intérêts. Alors pendant le premier confinement, j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport, comme d'habitude, et oui, j'ai commencé à faire de la musculation, mais je pratique aussi le yoga, et aujourd'hui, je le fais encore 4 à 5 fois par semaine, et je suis devenue une personne qui a besoin de bouger chaque jour, n'importe quoi, n'importe s'il s'agit du jogging, de la danse, musculation, yoga, ou bien d'une petite promenade avec ma famille ou seule. Et d'ailleurs, j'ai aussi cuisiné beaucoup et surtout fait de la pâtisserie exceptionnelle. J'ai fait et essayé de cuire de nouvelles recettes, comme par exemple pour l'anniversaire de mon père, j'ai fait un gâteau de forêt noire, c'est ça? Oui, oui. Un gâteau forêt noire. Oui, toute ma famille et aussi la famille de Léna l'ont vraiment aimé. Donc, je suis un peu fière de moi-même. Oui, donc, à côté de toutes ces choses, je n'ai pas eu beaucoup d'autres temps libres pour, par exemple, regarder Netflix. Et honnêtement, je remarque maintenant que je n'ai pas du tout regardé tellement des films et des séries sur Netflix. Ce qui m'étonne un peu, j'ai pris ce temps libre, oui, bien sûr, j'ai regardé quelques-uns, mais je pense qu'il y a des gens qui ont profité beaucoup plus que moi. Oui, j'ai par exemple regardé ma série favorite, elle est appelée Friends, Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais j'ai aussi regardé avec ma mère la série Jane the Virgin, où une dame est devenue enceinte par accident d'un médecin. Oh là là, c'était très amusant. Et je l'ai vraiment aimé, et ma mère aussi. Et ma sœur la regarde aussi maintenant, car j'ai trop parlé de cette série. Mais parlons maintenant des médecins. Je vous laisse entendre à nouveau ma conversation avec M. Nguyen, qui peut nous raconter une histoire plus désagréable. Et comme déjà dit par avant, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses sur lui-même.
Vous êtes devenu une personne vulnérable au cours de la pandémie, c'est ça?
J'avais toujours, à partir du mois d'août 2020, mm-hmm. quand j'ai eu mes 40 ans, j'ai commencé à avoir mal partout. Et on m'a envoyé chez des neurologues, chez des spécialistes ici. Personne n'a trouvé quelque chose. Et puis un de ces jours, au mois d'octobre ou novembre, on m'a envoyé chez un rhumatologue. Mm-hmm. Elle était superbe, la dame était superbe. Là, j'ai dû faire les deux scanners. Mm-hmm. Et ils ont donc trouvé les premiers symptômes d'une polyarthrite. Alors, je vais peut-être expliquer à tous les gens qui n'ont jamais entendu ce mot-là. Moi non plus, je n'ai jamais entendu parler de ce mot. La polyarthrite rhumatoïde, c'est un... En luxembourgeois, on dirait rhume. Mm-hmm. C'est une maladie auto-immune. Donc c'est le système immunitaire qui s'attaque, mm-hmm. voilà, qui attaque les mains et les pieds, etc. Donc on a partout mal aux membres, aux articulations. Oui. Voilà, bon, cela signifie que je dois maintenant prendre des médicaments pour diminuer le système immunitaire. Oui. Voilà. Et le problème, c'est qu'en temps de pandémie, mm-hmm. Diminuer le système immunitaire signifie en fait être plus vulnérable.
Oui. C'est un très grand risque.
Oui, on m'avait dit que j'étais encore jeune, même si tu dis que wow, monsieur, vous avez jusqu'à 40 ans. Je suis jeune, je suis en forme. Mm-hmm. Je suis moins une personne à risque que les gens de 80 ans. Mais quand même, si on prend ce médicament-là, mm-hmm. Son système immunitaire n'est pas aussi puissant, n'est pas aussi fort. Donc oui, le risque est grand. Donc, on m'a dit que je suis une personne vulnérable et que je n'ai pas besoin de venir à l'école, que je pourrais enseigner via Teams. Mm-hmm. Et toi, tu me connais, je pense que c'est...
Je ne peux pas m'imaginer que vous restez seulement à la maison.
Oui, je me suis dit que je vais prendre le risque. Je suis quelqu'un, j'espère que tu me donnes raison, que je suis quelqu'un qui aime enseigner. Mm-hmm. Et je me suis dit que si vous m'enlevez encore ça, je serais vraiment moralement... totalement au fond. Je pense que si on a mal, si on a mal partout, on ne devrait pas avoir mal dans la tête.
Oui.
Et je pense que c'est pour moi quelque chose de bien de pouvoir encore avoir un quotidien normal, mm-hmm. que de rester à la maison. Je pense que je serais totalement mm-hmm. frustrée.
Oui, oui. Ouais. Et donc avec les rendez-vous des docteurs et aussi à l'hôpital, ce n'est pas vraiment facile.
Non, parce que d'abord, je déteste les hôpitaux. Mm-hmm. Je déteste aller chez les docteurs. Et maintenant, je dois aller chaque mois faire une prise de sang. Mm-hmm. Et chaque mois, aller chez le rhumatologue.
Oui.
Et tous les, je pense, 4-5 mois, faire pas des scanners, mais des radiologies.
Ah oui.
Faire des radiologies pour voir si mes mains et mes pieds sont encore mm-hmm.
Donc, particulièrement pendant ce temps, pendant cette pandémie, quand on n'a pas... pas beaucoup d'occupations, on se fait beaucoup des soucis et on.
Oui.
Je pense que c'est très important de rester optimiste et je pense que vous êtes une personne très optimiste. Et...
Je dois dire une chose, je ne sais pas si c'est intéressant pour toi ou non. Au début de la pandémie, c'était le stress de se faire d'avoir cette infection, aussi de tomber malade mm-hmm. du Covid. Mais après. Avoir obtenu le diagnostic de la polyarthrite, c'est ça mon quotidien. J'ai presque plus peur du Covid, mm-hmm. parce que le Covid est tellement éloigné pour
oui.
moi.
Oui.
Et les maux, les douleurs, ça c'est chaque jour.
Oui.
Donc je ressens ça comme ma maladie et je ressens moins cette angoisse, cette peur mm-hmm. envers, mm-hmm. à l'égard
oui, je comprends, oui.
Du Covid. Oui.
Oui.
désolé de dire ça.
Non, je le comprends, mais oui, c'est vrai.
Alors, ce qui s'est passé à Monsieur Nguyen m'a choqué un peu. Et j'espère qu'il reste toujours si positif qu'il est aujourd'hui. Honnêtement, je n'ai jamais cru qu'on puisse devenir vulnérable si rapidement et particulièrement pendant un temps où on espère que le système immunitaire est très fort. Oui, imaginez-vous qu'un jour, vous savez que vous n'êtes pas si protégé de Caroline que vous avez toujours pensé. Oui, c'est un choc, je voudrais dire, dans le premier moment. Et comme il a parfois dit que je connaîtrais et comprendrais la situation, c'est car moi aussi j'ai reçu beaucoup de problèmes sanitaires pendant la pandémie. J'ai aussi visité des rhumatologues et j'ai aussi eu la proposition du traitement de M. Nguyen, car moi j'ai particulièrement de douleurs dans mon dos et mon bassin. Dans ces situations, de visiter les médecins et avec d'autres problèmes sanitaires, comme par exemple donc les douleurs du dos, ce n'est pas très facile car j'ai aussi eu la situation quand certains médecins ne voulaient pas me voir si je ne pourrais pas lui montrer un résultat négatif d'un test de quelques heures. Et un très grand aspect négatif de Caroline, car maintenant on a l'impression qu'il y a uniquement cette maladie qui existe, car toujours qu'on a des symptômes similaires, comme par exemple mal à la tête ou mal à la gorge, de la fièvre, on reçoit au minimum une fois la phrase « Ah oui, c'est Caroline, tu es infectée par Caroline ». Et ça m'énerve vraiment. Et dans ce moment ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis aussi un peu malade. Par exemple, mal à la tête et à la gorge. Et je ne me sens pas si fit. Mais j'ai dû faire tout de suite un test de diagnostic rapide car les apothécaires ne voulaient pas me vendre des médicaments jusqu'à qu'ils sachent si je suis positif ou non. Oui, je peux vous calmer, je suis négatif et j'ai aussi reçu d'autres médicaments, merci. Ça m'énerve vraiment, mais alors si j'aurais testé positif, trop de gens devraient aller en quarantaine. Pas seulement ma famille, mais aussi ma classe et quelques de mes amis. Mais en effet, ma famille et moi, nous étions une fois en quarantaine pour 3 jours, car mon père était testé douteux. Oui, douteux. Pas positif ou négatif, mais douteux. Mais finalement, il n'a eu rien du tout et on n'a jamais eu Caroline dans notre maison. Heureusement. Ça n'est pas vrai pour une de mes copines, Emma Grotz.
Alors maintenant, je suis assise à côté d'Emma Grotz. Elle est une élève de la deuxième DG et elle a eu même le Covid-19.
Le Covid-19.
Oh non, j'ai dit le mot. Désolée.
C'était quand?
C'était mi-novembre.
Ok. Alors, raconte-nous, quels symptômes est-ce que tu as eu?
Je me sentais en fait un peu comme si j'avais une grippe. J'avais un peu de la fièvre, de la toux, mais j'avais aussi surtout mal à la tête. Je me sentais aussi souvent fatiguée et j'étais vite essoufflée.
Oh, oh oui, ok. Alors, c'était les symptômes typiques dont il parle tout le temps à la radio?
Oui, plus ou moins.
Ok. Donc, explique-nous un peu comment tout s'est déroulé. Donc, est-ce que tu étais complètement isolée à la maison et avec ta famille? Comment la santé t'a contactée et tout ce déroulement, oui.
Le ministère de santé m'a contactée le lendemain après mon test positif et après mon résultat. Mm-hmm. Et ils m'ont dit de rester isolée pour moi-même et de ne pas utiliser les mêmes chambres et même pas la même salle de bain que mes parents et ma sœur.
Oui.
Ce qui est compliqué car on n'a pas deux salles de bain. Mais oui, et de désinfecter tout. Et que je dois rester en isolement pendant 10 jours.
Donc, désinfecter tout, ça veut dire aussi les chaises et les tables, oui. Ton lit.
Mon lit, ça, je ne devais pas désinfecter mon lit, mm-hmm. car c'est la chambre où je me suis isolée. Mm-hmm. Et donc, mais donc ma famille n'est pas entrée là. Mais...
Oui, toutes les autres choses, donc oui, la couche. Tout. Ok, le réfrigérateur.
Je ne pouvais pas utiliser
le... Oh non.
Le réfrigérateur.
Ok.
C'était très triste. Mm-hmm. Mais à la maison, oui, je me suis isolée moi-même dans ma chambre. Mm-hmm. Et j'ai seulement quitté pour me laver, pour prendre une douche et pour manger.
Oui.
Ce qui est interdit en fait, mais je l'ai quand même fait. Mais toutefois, pour manger, je ne suis jamais assise à la même table que ma famille. Et je devais toujours rester très attentive de respecter les gestes barrières. Donc, je devais porter mon masque. Oui. Je ne pouvais pas toucher rien.
Mais donc, tu as vu les membres de ta famille.
Oui, mais je n'étais pas assise à la même table.
Oui.
Mais j'ai aussi remarqué qu'être malade a aussi présenté quelques avantages. Je n'avais pas besoin de mettre et de débrasser la table. Oui. Je ne devais pas faire la vaisselle. Et oui, je me suis fait servir.
Ah, ça c'est aussi bon, oui. Donc, quelle était ton occupation principale?
Suivre mes cours et faire des devoirs. Mm-hmm. Mais aussi, j'ai fait 2 puzzles que j'ai jamais fait dans ma vie.
Et, de combien de pièces?
500 à 1000 pièces, je ne sais même plus.
Oh, ok, pas mal.
J'ai regardé Netflix, bien sûr, et j'ai lu plusieurs livres. Je ne sais pas combien, mais...
Alors, beaucoup plus que d'habitude.
Oui, okay. C'était vraiment ennuyé, j'en avais marre tout le temps.
Mais tu as beaucoup dormi ou...
Oh, ça va, je devais me lever tôt à cause mm-hmm. de mes cours, mais oui. J'ai dormi plus que si j'avais l'école.
Oui, ah, ok. Ok. Et donc, est-ce que tu as eu peur de garder des effets différés ou est-ce que tu as eu peur en général? Quand tu as reçu la nouvelle que tu es positive?
Non, j'avais pas trop peur car j'étais malade les jours avant mm-hmm. et je me pensais déjà que j'avais le virus.
Oui.
Donc ça allait. J'avais un peu peur. Ma mère avait toujours peur de mm-hmm. l'avoir, mais elle n'a jamais eu. Ah. J'ai contaminé ma sœur qui a également contaminé mon père.
Oh, God.
On a donc devait rester à la maison pendant environ 3 semaines.
Oh.
Ce qui est vraiment, vraiment ennuyé.
Oui. Oui, je pense que ça, c'est la chose la plus grave.
Oui, c'est... J'avais pas de problème avec ma maladie, mais j'avais problème à rester isolée à la maison. Mm-hmm.
T'es senti mal parce que tu as contaminé ta sœur ou ton père?
Ah oui, un peu, bien sûr, mais ça va, c'était... Ils étaient pas plus malades que moi, donc mm-hmm. ce n'était pas trop grave.
Ok. Mais est-ce que la santé vous a donné, par exemple, des masques de plus ou, par exemple, les désinfectants ou les quantités de désinfectants plus grandes pour désinfecter toute la maison ou vous avez dû l'acheter vous-même?
Heureusement, on en avait quelques-uns parce que la santé nous n'a donné rien. Mais,
oui.
On avait notre voisine qui a acheté des choses pour nous.
Mm-hmm, ok.
Mais oui.
Donc merci la voisine. Oui, grâce à Emma, je ne suis plus si effrayée de la maladie qu'avant. Oui, bien sûr, j'ai eu aussi peur au début de la pandémie de l'attraper, car personne n'a pas vraiment su comment elle se développe, mais qui n'a pas eu peur. Mais après un an, je pense, ou déjà plus qu'un an, je pense que les médecins et le gouvernement puissent maintenant réagir différemment en cas de patient positif. J'espère quand même. Et avec les choses qu'Emma m'a racontées de son infection, elle m'a calmée un peu car elle est une des seules personnes que je connais si bien et qui a été infectée avec Caroline. Et comme vous savez, c'est toujours une autre chose quand quelqu'un de près te raconte ces choses-là. Et de plus, je pense de la même façon que M. Nguyen. Pour le moment, j'ai d'autres problèmes sanitaires dans ma vie avec lesquels je dois me battre. Même si Caroline est toujours et partout présente, elle est encore tellement éloignée pour moi. Donc, merci beaucoup de m'écouter. J'espère que vous restez en forme
Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce podcast, même si c'était sur un sujet un peu énervant, mais ce n'est pas grave. Au revoir.